Radio Okapi, grand témoin. Avec le même plaisir, pour le même devoir, grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Zachary Bidibidi. Il est homme politique congolais et ancien ministre pendant la Deuxième République. Monsieur Bidibidi, merci de nous recevoir dans votre bureau. Et c'est un plaisir d'échanger avec vous. Vous nous parlerez de vous, de vos débuts dans la politique, de ce qui vous a attiré dans la politique. Nous n'en sommes pas encore là, mais on va commencer par une petite biographie de vous, juste pour vous connaître un peu plus et permettre aux auditeurs des Radio Okapi de vous découvrir. Dites-nous, vous êtes né où et quand?
Bien, je suis né dans le district du Bas-Fleuve, dans la localité Tende. Nous sommes dans le territoire de Lukula, mais je suis à cheval parce que mon père est du territoire de Tchela, ma mère de Lukula, et donc j'appartiens à ces deux territoires. Alors, très jeune, je suis allé à Kinshasa. C'est là que j'ai fait mon école primaire à Saint-Georges, à Kintambu, Mangembo comme on l'appelle à l'époque. Après mon école primaire, je vais faire l'enseignement social du niveau A2, comme on formait les assistants sociaux, à côté des assistants pharmacie. Alors, j'étais formé assistant social. De là, je vais faire l'école supérieure de commerce. Cette école de Père Skeet a été aujourd'hui...
L'école supérieure de commerce, c'est l'ISC
actuel? C'est l'ancêtre de l'ISC actuel.
Ok.
Parce que là où se trouve l'ISC, c'était l'endroit où se trouvait l'école nationale d'administration. Et donc, notre école de commerce était là où se trouve le collège Saint-Raphaël, derrière, chez les prêtres, là où il y a l'université catholique.
Catholique.
Voilà. Après l'école de commerce, j'ai pensé que c'était pas suffisant pour moi. Je voulais avoir une licence. C'est ainsi que j'irai à l'Université libre du Congo, pas l'Université libre de Kinshasa. L'Université libre du Congo, c'était une université protestante.
À Kinshasa toujours.
À Kisangani. Qui sera l'Université de Kisangani aujourd'hui, mais c'était l'UNASA campus de Kisangani. Et c'est là où j'ai eu une licence en psychologie industrielle. Et donc, je suis comportementaliste, économiste, et mon centre d'intérêt, c'est...
Vous aimez les affaires, le commerce?
Le commerce, c'est pour cela que j'ai travaillé 8 ans à la Caisse Nationale d'Épargne, donc la CADECO. C'est là où j'ai commencé ma carrière, j'ai fait 8 ans. Après, je me suis embarqué dans le circuit des cabinets ministériels. Je serai à l'économie nationale secrétaire particulier du secrétaire d'État. Et après, je serai conseiller dans ce même ministère, conseiller technique. Je suis resté pratiquement 10 ans dans ce ministère.
Apparemment, vous avez travaillé dans des endroits où vous voyez passer l'argent.
Oh, je crois que... Bon... C'est pas un hasard que je sois dans ce milieu-là, parce que ça correspondait plus ou moins à mon profil. Et je dois vous dire que presque toute ma vie, je n'ai tourné que dans ce secteur. Lorsque les vents de la démocratisation arrivent, je vais rejoindre les vieux qui créaient le Parti Social-Démocrate Chrétien.
Le PDC
de Papa Iléo.
Alors, vous êtes cofondateur.
Je suis cofondateur de PDC.
Alors, qu'est-ce que vous attirez dans la politique? Vous étiez.
Ce qui m'a attiré dans la politique, parce que j'aime bien être là où se prennent des décisions. Et le pays venait de marquer un point final parce que Mobutu est partant. Et donc.
Et vous pensez que les décisions se prennent dans la politique?
Eh bien, écoutez, vous savez que le parti, dans sa définition, est un véritable champ de bataille où se préparent ceux qui peuvent gérer le pays. C'est un centre de formation. Et c'est là que, à partir, n'est-ce pas, du projet que l'on trace, le projet de société, c'est là qu'on va voir les idées maîtresses qui puissent vous permettre, n'est-ce pas, de conjuguer des efforts pour le développement d'un pays. Et c'est là que vous verrez, vous avez les libéraux, vous avez les sociodémocrates, et vous avez ceci, vous avez cela. Donc, ce sont des structures, des pépinières, des formations politiques.
Alors, vous êtes cofondateur du PDC. Le PDC, c'était un parti de l'opposition.
C'était un parti à l'époque, au fait. Voilà. Comment est née l'opposition dans notre pays? Du moins, dans la seconde phase. La première phase, nous n'avons pas connu, nous sommes des enfants à cette époque-là. La phase Lumumba, bon, on est des enfants.
De la phase Mobutu.
Bon, mais la phase Mobutu, l'opposition qui va naître à partir de son discours de 24 avril
90,
s'est démarqué autour de l'idée d'organisation de la conférence nationale. Mobutu tenait à une conférence constitutionnelle. Alors,
Pourquoi il s'opposait à une conférence nationale?
Il s'opposait à une conférence nationale dite souveraine parce qu'il avait peur qu'il soit dépouillé de tous ses pouvoirs et qu'il soit éjecté. Parce que on avait cette expérience à Brazzaville, Sassou avait cédé la place au Premier ministre Milongo, qui avait tous les pouvoirs, et donc lui, le président de la République, n'était plus qu'un simple symbole, et à ce moment-là, Mobutu a pris peur qu'il soit balayé de cette manière-là, quand il disait que sa tête allait nous coûter cher.
Et qu'est-ce que lui, il entendait par conférence constitutionnelle?
Lui, il voulait, au fait, une conférence à la lumière de l'ancienne conférence de Luabourg qui a engendré la constitution dite de Luabourg, et parce qu'il avait cette expérience-là, c'est pour cela qu'il voulait revenir sur ces traces-là. Il n'avait pas une idée exacte d'une conférence nationale souveraine. Et vous savez que sa peur était justifiée par le fait qu'il croyait que la conférence nationale souveraine allait même l'envoyer en prison. Et donc il s'est opposé parce qu'il voulait une réforme à sa manière. C'est-à-dire, il pouvait continuer à gouverner le pays, mais en introduisant un certain nombre de réformes dans les structures de l'État.
Mais cette conférence nationale souveraine a eu quand même lieu.
La conférence souveraine a tenu ses travaux.
Après plusieurs tractations.
Il y a eu beaucoup de tractations. Et madame, laisse-moi vous dire que j'étais au four et au moulin dans toutes ces tractations-là. Oh, que de va-et-vient, tantôt palais de marbre, tantôt encellé, tantôt palais
de peuple. Pour arriver à convaincre le président Mobutu.
Pour arriver à s'accommoder. Parce qu'il était question que nous tous nous regardions dans la même direction. Et c'était simplement le fait que Mobutu faisait la résistance. Il tenait à ce qu'il soit, lui, le promoteur de tout, alors qu'il n'était plus président fondateur. Et bien voilà tout le débat qui s'est allongé en longueur.
Et les partis politiques de l'opposition s'étaient regroupés en une plateforme.
Oui, les partis politiques de l'opposition, pour mener une action commune, a senti le besoin de se regrouper après la tenue des états généraux qui a eu lieu aux eaux. Trois partis ont été considérés comme locomotives. Il y a le PDC, le Feringouz et l'UDPS, où il y avait le Quartor, Tshisekedi Wamulumba, Boakye Mnyorelem, Kibasa Maliba et Marcel Yahou. Ça, c'était, n'est-ce pas, le directoire de l'UDPS. Alors, finalement...
Et vous étiez parmi les délégués du PDC?
J'étais parmi les délégués du PDC, Femme Lumbangula et moi. Nous représentons, n'est-ce pas, le PDC à ce qu'on a appelé le stop secrétariat technique de l'opposition. C'est, en fait, c'est en quelque sorte ce gouvernement fantôme qui a gouverné l'opinion pendant tout ce temps-là et c'est comme cela.
Et comment ça fonctionnait, ce gouvernement fantôme?
Eh bien, le stop, pratiquement, c'était le maître de l'opinion politique de la République parce que nous avions... une branche de stratégie, nous faisons des stratégies, nous prenons des actions communes, nous surprenons Mobutu.
Il y avait des ministres au sein de ce gouvernement, est-ce qu'ils étaient payés, comment?
Ah non. Les ministres, c'est seulement nous qui étions, n'est-ce pas, les responsables de ces secrets techniques. J'assumais d'ailleurs la permanence parce qu'il y avait Fausté Birindoa qui était pratiquement le coordonnateur et moi je faisais office du secrétaire permanent, c'est moi qui signais les cartes des membres et donc... C'est ce secrétariat qui devait réfléchir avant la tenue de toute assemblée générale qui regroupait tous les partis politiques de l'opposition. Et quand il y avait une assemblée générale, le stop avait d'abord réfléchi et tiré pratiquement toutes les conclusions de la réflexion que l'on venait soumettre à la plénière de tous les partis pour que les résolutions qui sont prises soient opposables à tous.
Est-ce que ce n'était pas mettre votre vie en danger, défier le président Mobutu?
Les politiques, la politique demande du courage. Vous ne pouvez pas y œuvrer dans le domaine politique avec une dose de peur. Comment vous allez travailler pour votre peuple en ayant peur? Ça n'a pas de sens.
Et donc vous étiez prêt à tout?
Madame, lorsqu'on défend une cause juste, eh bien, on la défend jusqu'au sacrifice suprême.
Alors, la conférence nationale souveraine se tient avec Monseigneur Mosengo.
Avec Monseigneur Mosengo comme président, c'est nous, l'opposition, qui sommes allés chercher Monseigneur Mosengo. Monseigneur Mosengo a accepté cette mission dans la mesure où nous avons pu dégager un consensus avec la société civile, qui était proche de l'opposition, et Mobutu n'avait plus de choix pour ses présidents de la conférence nationale souveraine, parce que, en termes de rapport de force, c'est nous qui avions, n'est-ce pas, le vent en poupe.
C'était une victoire de l'opposition.
C'était une victoire de l'opposition.
Cette conférence nationale.
Absolument, c'est une victoire. Mais je dois vous dire que cette conférence a pu terminer ses travaux en catastrophe.
Effectivement.
En catastrophe, ce qui fait que toutes les résolutions qui ont été élaborées au cours de ces travaux sont pratiquement restées dans le tiroir.
Et pourquoi?
Eh bien, parce que nous avons connu aussi beaucoup de hauts et de bas. Vous savez, la gestion des ambitions politiques n'est pas chose aisée. Nous avons connu nos propres crises. L'Union sacrée a connu, n'est-ce pas, ces crises pour engendrer d'autres unions sacrées.
Il y avait une division au sein de l'opposition.
Il y a eu simplement un problème de gestion des ambitions politiques. Mm-hmm. Et c'est ce qui souvent engendre des difficultés dans les actions politiques.
Et on a compris que l'opposition qui disait se battre ou défendre les intérêts du peuple, ce n'était pas ça, c'était plutôt des intérêts personnels.
Je pense que les intérêts des hommes politiques ne sont pas en contradiction aux intérêts du peuple. Mais tous les problèmes, c'est que on arrive à des moments où on a l'impression que les acteurs politiques ne travaillent pour leurs propres intérêts. C'est lorsque on passe outre l'idéal. L'idéal, c'est ce qu'on appelle le projet de société. Lorsque vous œuvrez dans un environnement corrompu, lorsque tout le monde considère que le dieu de la terre, c'est l'argent, il y a des dérapages. Moi, je considère ça comme des dérapages. Parce que c'est un apprentissage que nous faisons. Ne nous donnons pas l'illusion qu'on est arrivé. Le chemin est encore long. Et donc, il faut de la patience. Évidemment,
dans ces... Et l'opposition se croyait déjà arrivée?
Je ne crois pas qu'une opposition responsable peut se dire « Je suis arrivé ». On arrive que quand la satisfaction est liée dans les esprits du peuple. À ce moment-là, on pouvait dire qu'on est arrivé.
Il y a eu des gouvernements d'Union nationale. Vous avez été ministre dans le gouvernement Birindwa, ministre de l'économie et de l'industrie.
De l'industrie, oui. J'ai occupé ce poste-là. Eh bien, pour moi, c'était pratiquement l'enfant de la maison qui revenait, parce que je suis resté dans ce ministère pendant presque 10 ans. Et donc, le choix qui a été opéré pour faire de moi le ministre de ce département était tout à fait prémonitoire.
Est-ce que c'était vraiment un gouvernement d'union nationale?
Eh bien, nous sommes à un moment où...
Les régimes avaient acheté quelques opposants qui
achetaient
dans ce gouvernement.
Achetaient non. Nous avons simplement connu un dérapage. Lorsque, dans les bourraras de la conférence nationale souveraine, on est arrivé à un moment de crise. Crise parce que le gouvernement issu de la conférence nationale souveraine, dirigé par mon grand frère, papa Étienne Tshisekedi Wamulumba, ce gouvernement avait été chassé. L'état de ce gouvernement, il faut le relever au sein même de notre propre position. Parce que la formation de ce gouvernement a créé beaucoup de problèmes au sein même de l'opposition. Mobutu en a profité pour balayer ce gouvernement-là. Alors, face à ces contradictions, il fallait requalifier l'action de l'opposition qui était pratiquement au centre de la conférence nationale souveraine. C'est comme cela que, à la demande de l'opposition, nous avons pensé qu'il fallait organiser un conclave pour dégager un consensus national entre l'opposition et la mouvance présidentielle. Malheureusement, l'idée du conclave émanant de l'opposition va connaître aussi une crise, parce que d'autres acteurs politiques avaient estimé que c'est le moment de revenir aux affaires. Et à ce moment-là, il y avait des négociations en sourdine avec Mobutu, ce qui fait qu'au moment d'aller à la table de ce conclave de Kinshasa, eh bien, Monseigneur Mosengo fera défection à ce conclave. Parce qu'on lui aurait dit, semble-t-il, il y a eu un problème protocolaire comme quoi Mobutu allait ressusciter l'ancien conseil législatif, n'est-ce pas, de la Deuxième République, pour que Anzuluni, qui était le président de ce conseil, puisse présider ce conclave au détriment de Mgr Mossengo qui était président du Haut Conseil de la République, qui était le nouveau parlement issu de la Conférence nationale souveraine. Alors, ce qui fait que si Mgr ne préside pas le conclave, ça veut dire que, eh bien, le Haut Conseil était déconsidéré. Et c'est ainsi que Mgr ne se rendra pas à ce conclave. Et comme il était prévu que la conférence s'ouvra avec Mgr Mossengo et le président Mobutu, le président Mobutu constate que les délégués du conclave étaient déjà au palais de la nation, Mgr Mossengo n'était toujours pas là, eh bien, le président est arrivé au palais de la nation, et ceux qui étaient là-bas, eh bien, ils ont décidé de continuer le conclave. Et c'est ainsi que ce conclave, effectivement, ne sera pas présidé par Mgr Mossengo. Et c'est ce conclave qui va donner lieu à un gouvernement avec l'élection de M. Faustin Birindwa comme Premier ministre. Et à ce moment-là, j'étais appelé au gouvernement ici de ce conclave.
Et l'opposition, le combat de l'opposition pendant cette période, c'était quoi? Le départ du Mobutu ou les réformes dans plusieurs secteurs de la vie publique, sociale, politique du pays?
Le départ de Mobutu côtoyait pratiquement toute la pensée de l'opposition. Mais avec l'intervention de la communauté internationale, on nous exigeait des aménagements. Parce qu'il fallait faire aboutir, n'est-ce pas, la fin Mobutu en douceur. Il ne fallait pas qu'il y ait des casses. C'est ainsi qu'on ira de négociation en négociation pour essayer de dégager un consensus qui puisse permettre à Mobutu de rester au pouvoir, mais sans qu'il ait, n'est-ce pas, tous les pouvoirs, comme ce fut le cas à l'époque du parti État. Bon, cela a créé beaucoup, beaucoup de remous dans nos rangs. Cependant, on va tenter de revenir encore une fois aux négociations pour trouver un gouvernement qui soit le gouvernement de tous les acteurs politiques, sans exclusive. Malheureusement, au moment où nous allons vouloir nous engager dans cette voie, Mobutu était affaibli par la maladie, mais dans l'entretemps, il y avait un mouvement qui était déjà opérante à l'Est, et ce qui fait que, en dépit du fait qu'on arrivera à remettre Tshisekedi dit à la sauvette, eh bien, les carottes étaient déjà cuites.
Radio Capi, grand témoin.
Grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Zachary Bidibidi. Il est homme politique congolais, ancien ministre pendant la Deuxième République. Après le ministère, vous avez travaillé au Conseil.
Au Conseil de la République. Comme conseiller de la République, comme député. Voilà, c'était le Parlement de transition qui avait, n'est-ce pas, élargi ses portes aux négociateurs, parce que je vous ai dit qu'il y avait d'autres conseillers habiles pour remettre un gouvernement d'union nationale avec à la tête Étienne Tshisekedi. Malheureusement aussi, ces négociations-là du palais du peuple engendrera une autre estimation. Plutôt que de prendre Tshisekedi, on prendra Kengwa Dondo, parce que l'opposition a connu aussi un clivage quand nous sommes partis. C'est nous qui avons la direction de cette affaire. Quand les stops s'est dispersé, il n'y avait pratiquement plus rien. Il est né d'autres, n'est-ce pas, forces politiques au sein de l'opposition, notamment l'IRD qui engendrait notre grand frère Kengwa Dondo. Et quand ils iront à l'élection du Premier ministre après la constitution du Parti Peuple, ben c'est Kengwa qui sera élu Premier ministre à la place de Tshisekedi. Tout cela, il faut verser ça dans le cas de la crise qu'a connue l'opposition.
Alors en 97, Laurent Désiré Kabila arrive et fait tomber le régime des Mobutu. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit personnellement que votre combat avait échoué? Vous qui cherchiez pendant la Deuxième République, vous avez essayé par tous les moyens de faire tomber Mobutu, mais malheureusement vous n'avez pas réussi.
Non, personnellement, je n'étais pas lié à ces choses-là. Non, je n'étais pas lié à la dimension que si Mobutu n'est pas là, ou si nous ne faisons pas... Non. Je pense que la classe politique de Kinshasa avait démontré ses limites. Nous n'arrivons plus à nous accommoder. Une nouvelle force arrive dans le pays. Tout le monde a fondé l'espoir que le nouveau pouvoir qui arrive, certainement qu'il reprendra les résolutions de la Conférence nationale souveraine. Et ce sont ces résolutions qui allait sous-tendre l'action, n'est-ce pas, du gouvernement à mettre en place. Et à ce moment-là, nous pensons que nous allons cheminer dans la direction de ces résolutions-là.
Et ce n'était pas le cas.
Bon, ce n'était pas le cas parce qu'il est évident que Moussa Lauré-Désiré Kabila n'était pas partie prenante de la conférence nationale souveraine. Et donc, il a aussi envisagé.
Il a suspendu les activités de.
Il a suspendu les activités politiques à titre provisoire, ce que je sache, parce qu'il avait aussi envisagé le processus électoral, les prises de pouvoir, et c'est pour cela que lui aussi avait créé une commission constitutionnelle qui devait s'atteler à élaborer un nouveau cadre institutionnel qui puisse nous permettre d'aller aux élections démocratiques, libres et transparentes.
À l'arrivée de l'AFDL, vous étiez au Haut Conseil de la République.
J'étais au Conseil de la République.
Qui avait été suspendu par Laurent Désiré Kabila.
Qui a été suspendu par Moïse Laurent Désiré Kabila. Évidemment, les Conseils de la République sont allés en procès contre la République. Parce que, plutôt que de dissoudre, c'était la suspension, le temps s'est allongé, et donc, beaucoup de conseillers publics en ont mort, faute de moyens, c'est tous ceux qui sont venus de l'intérieur, et donc la République a été condamnée à indemniser, n'est-ce pas, les conseillers publics pour le temps qui s'est écoulé jusqu'au moment où le tribunal, n'est-ce pas, a tranché pour dire que cette institution n'existait plus, mais le temps et que vous avez passé là-bas, la République vous doit.
Et vous avez déjà été indemnisé par la République?
Bon, il y a eu des moments où on a versé des petits montants insignifiants. Mais le dossier reste pendant.
Uh-huh. Voilà. Et vous espérez que la République va vous indemniser?
Mais la République a beaucoup de dettes à payer. Et comment vous voulez que la République se réconcilie avec elle-même si la République ne fait pas table rase, n'est-ce pas, du contentieux qui existe et qui sont dans le dossier?
On parle de la période de Laurent Désiré Kabila. Pendant son règne, vous étiez dans l'opposition.
Pendant son règne, je dois vous dire que j'ai pris mes pas aussi dans la FIDEL. Je vous ai dit que j'étais voisin de la FIDEL provinciale. Bon, moi, personnellement, quand Moïse est arrivé, je n'ai jamais été inquiété, ni de près ni de loin. Je n'ai jamais été inquiété.
Genre. Mais pourquoi vous vous opposez alors
à
son régime?
Pratiquement, pratiquement, je dois vous dire que quand Moïse arrive, il y a la démarcation. Tous les partis de l'ancien système constituent un bloc. Il y a des gens qui sont allés à l'extérieur. C'est un bloc. Ceux qui ont fui, c'est un bloc. La réconciliation nationale, les forces intérieures, les forces extérieures, plus le régime en place. On se met en communion. On va cheminer sur le même chemin. C'est normal qu'à ce moment-là, j'ai dit, je suis de l'opposition. Alors, petit à petit, nous allons nous rendre compte qu'au sein de l'opposition, il n'y a plus, n'est-ce pas, une sorte de communion d'esprit. Et nous avons pensé que la commission que Moïse Lauré-Désiré Kabila avait mise en place, qui avait aussi repris quelques-uns des membres de forces politiques intérieures, qu'il a trouvé à Kinshasa, était l'ouverture pour tout le monde. Donc, chacun pouvait prendre, n'est-ce pas, ses responsabilités. Et moi, je me rappelle que j'étais proche de la FIDEL. Je n'ai jamais eu à être inquiété. Et donc, si on m'appelle, je disais, je répondais à l'appel.
Vous étiez prêt à travailler avec la FIDEL?
Malheureusement, non. Peut-être dans le CPP. Dans le CPP, bon, je travaillerai plus tard. Plus tard. Lorsque je vous ai dit que nous sommes partis à Libreville, quand le dialogue, n'est-ce pas, intercongolais devait commencer avec l'accord de Lusaka, j'ai été sélectionné dans cette délégation qui devait se rendre à Libreville comme membre de l'opposition intérieure. Nous sommes partis à Libreville. Malheureusement, au retour de Libreville, nous sommes au mois de décembre, en janvier, Moïse n'est plus. 2001, Moïse n'est plus. Et donc, à ce moment-là, ce sera l'avènement de notre président actuel, Joseph Kabila. Et quand il arrive, l'occasion m'a été donnée aussi d'être reçu dans un appel que le président avait opéré aussi.
Et on va souffler un peu. Dites-moi comment vous passez votre temps libre, vos moments de détente, comment vous occupez?
Bah, écoutez, je suis amoureux de la lecture. Presque tout mon temps, je le consacre à la lecture. Ou je fais mon apprentissage en anglais, ou je travaille sur, vous savez, je suis amoureux, n'est-ce pas, de Martin Luther King. Malheureusement, l'ouvrage n'est pas ici. je suis en train, n'est-ce pas, de chercher des idées de renforcement de mes capacités, etc. Et quand je me sens tout à fait fatigué, bon, je peux écouter les sons de la musique. Et la musique qui m'intéresse souvent, c'est les vieilles gloires, sinon la musique classique.
Les vieilles gloires de qui, par exemple ?
De Luambo Makiadi.
Dans le répertoire de Luambo, quelle est la chanson que vous aimez le plus, qui vous a marqué ?
Ozala Kamutu DG.
Mm-hmm. C'est une leçon.
Hein. Entouré Estala Kamabe.
C'est une leçon.
Ah, c'est une grande leçon. Pour les dirigeants, ils doivent toujours penser à leur entourage. Mm-hmm. Si vous avez des éléments négatifs d'entourage, eh bien, il faut peut-être s'en débarrasser. Parce que quand on est chef, il faut savoir mettre l'église au milieu du village.
Et en dehors de la politique, vous avez d'autres activités personnelles ?
Oui, écoutez, j'ai une ONG, n'est-ce pas ? L'éducation civique, le DINADEC, Dynamique pour le changement et le développement. Pendant le processus électoral, nous avons aussi participé à la formation des électeurs. Je suis en partenariat avec les armées américaines. On est en train de penser à la création d'une cimenterie. Et donc, de temps en temps, je suis comme un consultant dans le domaine des affaires.
Ozala kaka moto deje, ka confrontation. Oye ba ma be uti wa pie poninyo. Ya e coro pa pebin saca y en ponillo
Osala takata moto deje Osala takata moto deje Entourage sala kama pe ponillo
Entourage baby si la gai makambo Balobina deje na tonga gai na banganda Deje alongo linga y sempre a vie ponillo.
Alors, juste rappeler à ceux qui viennent de nous rejoindre que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Zachary Bidibidi. Il est homme politique congolais, ancien ministre pendant la Deuxième République. Aujourd'hui, vous êtes cadre du PPRD et secrétaire interprovincial, c'est ça?
Secrétaire permanent interfédéral. Alors, nous avons trois fédérations de la province.
Du PPRD Matadi,
Bakongo,
plutôt Bakongo. Vous avez commencé votre lutte, la politique dans l'opposition. Ouais. Aujourd'hui, on vous retrouve dans la majorité, le parti du pouvoir. Ouais. Une certaine opinion estime que les acteurs politiques congolais sont, excusez-moi pour le terme, des prostituées politiques. Ils adhèrent à des partis politiques où il y a l'argent.
Non, je crois que...
Et ils n'adhèrent pas par conviction, c'est juste pour se retrouver quand un parti politique est au pouvoir. Ils adhèrent nombreux dans ce parti, juste pour profiter de l'argent de l'État.
Bon, je ne sais pas. Je pense que c'est un jugement des valeurs un peu péjoratif. N'oublions pas. Nous, en RDC, nous sommes en train de faire de l'apprentissage politique. On a connu, disons, je peux dire maintenant, on a trois phases. La première phase date des 60, avec l'avènement du pays à l'indépendance. Deuxième étape, c'est la naissance de la Deuxième République. Troisième phase, c'est l'avènement de Moïse Laurent-Désiré Kabila, avec le balayage de la dictature mobutienne, qui aurait fait 30 ans, n'est-ce pas, au pouvoir. Et donc, dans ces étapes, les partis politiques font de l'histoire, qui doivent se consolider. Ils ne sont pas encore arrivés en pleine maturité, parce que le parti, ce ne sont pas les dirigeants. Le parti, ce sont les adhérents, les camarades adhérents.
Et c'est pas
la
ça, en
formation...
RDC, les partis politiques, c'est le dirigeant. Ben, lorsqu'il disparaît, le parti disparaît.
Beaucoup de partis, quand le dirigeant n'est plus, ça disparaît. Aujourd'hui,
le cas du PDC.
Aujourd'hui, c'est le cas du PDC. Papa, il est parti. Bon, Bobuleko a essayé de faire quelque chose, mais il n'a plus l'ampleur que le parti avait quand tous nous étions là. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce n'est plus le PDC que j'ai connu. Aujourd'hui, si l'IDPS résiste, parce que Tshisekedi est vivant, le jour où Tshisekedi n'est plus, vous êtes sûr que l'IDPS sera là? Je doute fort qu'il soit là. Maintenant, lorsque je prends mon parti, le PPRD, je pense que ce qui m'a conduit, parce que je suis involontaire, je ne suis pas un récrit, je suis involontaire. Quand je choisis sur base des documents. Le projet de société du PPRD est parmi les meilleurs projets de société qui puissent exister dans ce pays. C'est comme le manifeste de la CELE. C'est parmi les meilleurs projets de société qui puissent exister dans ce pays.
Ce sont les textes.
Mais dis-moi, attendez. Mais au commencement, c'était l'idée. Et l'idée engendrait le progrès. Si vous avez un projet de société, ce qui nous manque, c'est la formation politique permanente et approfondie. Parce qu'il y a un hasard dans le placement parfois des responsables politiques du parti. Vous ne pouvez pas confier une responsabilité politique du parti à quelqu'un d'un niveau inférieur, parce que les affaires du parti, ce sont des affaires philosophiques. Ce n'est pas seulement l'accueil du chef, l'accueil de tel dirigeant. Ce sont des affaires philosophiques. Et comment aujourd'hui vous allez balayer d'un trait en disant « Ah non, les gens, c'est la théorie ». Mais il faut d'abord que la théorie intervienne.
Pendant 10 ans.
Mais qu'est-ce que vous... Mais pendant 10 ans, je crois que, madame, si on est sérieux dans ce pays, parce que souvent nous, les Congolais, parfois, on est trop émotifs pour juger. Moi, je vous dis, quand je regarde la ville de Kinshasa, sincèrement, la ville est trop vaste. Il est trop vaste. Le travail est immense. D'abord, cette ville n'a pas été construite en un jour. Méfiez-vous. Il y a 52 ans bientôt que nous sommes indépendants. Les axes routiers laissés par la colonisation sont presque tombés en ruine. Il y a des coins de la République où il n'y a plus de route. Mais pour réfistoler ça, mais c'est toute la vie de l'homme. Toute la vie de l'homme. Cela veut dire que ce n'est pas en 10 ans que vous voulez avoir un Congo pimpa neuf comme à l'époque du Congo des papas. C'est un rêve. Nous ne devons pas considérer que ce qui se fait aujourd'hui est insuffisant.
Alors, M. Zachary Bidibidi, on va parler un peu d'actualité. L'actualité de la province du Bas-Congo aujourd'hui, c'est l'élection du gouverneur.
Oui.
Pour le moment, c'est l'adjoint, le vice-gouverneur qui assume l'intérim.
Oui.
Mais il y a une certaine agitation dans la province. Comment vous analysez cette situation?
Moi, je crois que cette situation doit être régularisée. Mais c'est tout à fait naturel. C'est naturel. Nous sommes dans un processus de la décentralisation. Le placement du personnel politique en province est réglé par la loi. Vous avez des institutions, l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, qui comprend le gouverneur, le vice-gouverneur et les membres du gouvernement, les ministres provinciaux. Mais quand il n'y a pas de gouverneur, la loi prévoit ce qu'il faut faire. Article 160. Le gouverneur est décédé, il est empêché, il a démissionné dans les 30 jours. Élection du nouveau gouverneur.
On n'a pas violé la constitution.
Les délais dépassent en organisant.
Ce n'est pas une violation.
Ce n'est pas une violation. C'est une léthargie que nous avons connue. Mais dans cette léthargie-là, évidemment, on ne va pas tirer la discussion en longueur. Il n'y a pas quelqu'un qui doit s'autoproclamer gouverneur. Non. Le gouverneur doit être élu. On est intérimaire ou on est adjoint. Mais il n'y a pas une autoproclamation du gouverneur, et encore moins notre président de la République qui est respectueux des lois, il ne nomme pas de gouverneur. Donc, l'élection du gouverneur de province ne doit pas faire l'objet d'une agitation quelconque. C'est un fait tout à fait normal.
Il faut attendre son élection par l'Assemblée provinciale.
Mais c'est l'Assemblée
provinciale. Une Assemblée provinciale aussi qui est irrégulière.
Oh, ne vous en faites pas. Ce n'est pas une Assemblée régulière. L'Assemblée régulière, parce que l'élection des députés provinciaux n'a pas encore eu lieu. Et la loi dit
mais
que...
Mais ça fait plus de 5 ans qu'ils sont là.
Ce n'est pas un problème de 5 ans, madame. Souvent, les gens...
Mais c'est un problème de
non,
quoi?
Non, les gens interprètent mal les décisions politiques d'un pays.
Non, on respecte les textes.
Non, les textes... Attendez. Ce n'est pas de la mathématique 1 plus 1 égale 2. Gérer une nation demande beaucoup de patience. Plusieurs facteurs interviennent. Il y a eu des pays qui ont connu des guerres, par exemple. Une assemblée qui était là. Il a fait 10 ans dans cette assemblée-là. Parce que les conditions d'organisation des élections, quand ils ne sont pas réunis, vous faites quoi?
La province du Bas-Congo, par exemple, nous sommes au Bas-Congo, qu'est-ce qui empêche l'élection? Ou même, je prends le pays en général, qu'est-ce qui empêche l'élection des députés provinciaux?
Non, attendez. Vous êtes au courant de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Après les élections de 2011, vous savez très bien ce qui s'était dit autour de ces élections. La communauté internationale ne peut pas demander une chose et son contraire. Nous voudrions que les élections des députés provinciaux se fassent dans les conditions différentes de celles, n'est-ce pas, des députés nationaux.
On n'en discute bien pas. On a demandé la restructuration de la CENI. Pourquoi ça traîne?
C'est un processus en cours parce que les députés nationaux ont fait toute une série de recommandations à la CENI. Ça, c'était notre volet. Le volet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de remplacer le gouverneur là où il n'y en a pas, pour éviter que les provinces naviguent à vue et que les ressources des provinces soient privatisées et que nous assistons au théâtre de distribution de l'argent de l'État. C'est le seul pays où on croit que quand on arrive à la direction des affaires, on s'approprie de ce que l'on gère. On est même prêt à priver des droits à ceux qui ont nos droits. Ce n'est pas sérieux. Les ressources sont là. Il y a ce qu'on appelle la gestion budgétaire. Cela veut dire qu'il y a toute une série d'axes tracés qui doivent être respectés. L'inconvénient d'avoir un gouvernement intérimaire, c'est ce gouvernement, une fois démissionnaire, il ne peut pas engager la province dans des grandes actions. À ce moment-là, c'est de la navigation à vue. Or, la démocratie veut éviter cette navigation. C'est ainsi qu'il faut revenir à la légalité. Revenir à l'égalité, c'est un processus tout à fait normal.
Alors, M. Zachary Bidibidi, nous sommes à la fin de notre entretien. Merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous. Un dernier mot à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment sur Radio Capi.
Eh bien, madame, c'est d'abord moi qui dois vous remercier d'être venu m'interviewer. Et je dois dire qu'à nos auditeurs, tout ce que je peux dire, nous devons avoir une pensée positive dans notre pays. Et le souci de résoudre le problème du pays doit être un souci commun à tous les niveaux. Et surtout l'auto-encadrement des dirigeants. La population ne doit pas considérer que les dirigeants sont à part et eux à part. Et les dirigeants et la population, c'est la même composante. À chaque fois que les dirigeants viennent, soit dans un matanga, il faut que la population en profite pour envoyer le message qu'elle considère comme une contribution pour la bonne marche des affaires de l'État. Parce que l'état de droit est sécurisant pour tous. Et j'aspire à l'état de droit, c'est pour cela que tout mon combat, et c'est la raison qui m'a mené dans le monde politique, lutter contre les antivaleurs, faire en sorte que l'inversion des valeurs prenne fin, que le bien public soit respecté, que le droit de chacun soit aussi respecté. Alors, franchement, ce n'est pas le dernier rendez-vous que je prends avec mes compatriotes, mais je pense que nous devons donner le temps au temps. Et nous devons ne pas continuer à maudire notre pays. Nous devons l'aimer, comme je vis, les Américains aimaient leur pays. Quels que soient nos problèmes, eh bien, nous finirons par les résoudre.
Alors, une dernière petite question avant de nous séparer, candidat à la députation provinciale.
Je crois que je peux vous dire que j'y réfléchis. Et avec la volonté de mes camarades, il n'y a pas de doute que je sois candidat à la députation provinciale.
Je vous remercie.
C'est moi qui dois vous remercier.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Zachary Bidibidi. Il est homme politique congolais, ancien ministre pendant la Deuxième République. Merci à Guy Roger Nyampala qui nous a aidé à préparer cette émission. La technique était assurée par Dieudonné Nyangasa au micro Kelly Kouté. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche à tous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.